Bonjour, sœur Anne-Cécile Ruppier.
Bonjour, Anne-Rose.
Sœur Anne-Cécile, je rappelle que vous êtes sœur de la congrégation Notre-Dame de Sion. Avec vous, cette semaine, nous parlons de Philippe MacLeod. Philippe MacLeod est un écrivain, un poète, un chrétien qui a vécu ici à côté de Lourdes et qui a travaillé au sanctuaire de Lourdes, à la librairie du sanctuaire. Nous parlons avec vous de sa vie, de son œuvre, et puis on va parler spécialement aujourd'hui de sa spiritualité, parce qu'à travers ses 18 ouvrages, il nous laisse un peu un héritage, hein, un chemin de spiritualité. On va en parler aujourd'hui. D'abord, comment on pourrait la décrire, cette spiritualité? Quand on se plonge un peu dans ses écrits, il y a des mots qui ressortent, le silence, la prière, l'humilité. Comment vous pourriez décrire cette spiritualité de Philippe MacLeod?
En fait, j'ai envie de revenir à ce qu'il m'avait dit un jour. Il m'a dit qu'un moine, je crois dans Calcutta, lui avait suggéré un jour de prendre le prologue de Saint Jean pour sa Lectio Divina le dimanche matin. Lui-même, ce moine, le faisait. Et Philippe, je pense, a pris l'habitude de méditer tous les dimanches matins le prologue de Saint Jean. Or, le prologue commence, au commencement était le verbe, la parole. Donc, pour un poète, un écrivain, c'est quelque chose de très important.
Ça résonne tout de suite.
Ça résonne tout de suite. Après, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et ensuite, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je crois que ce prologue est le climat de sa prière, de sa spiritualité et de sa poésie. À tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est une spiritualité de la transparence, de la lumière, de l'incarnation d'abord. Mmh. C'est-à-dire que tout l'être... en lui était la vie, tout l'être est destiné à être pris dans cette participation à la vie divine. Ça, je crois que c'est très important pour lui.
Et c'est exigeant. Qu'est-ce que ça exige?
Je pense que la première chose, c'est le climat. Pour lui, c'était pas tellement, on n'avait pas tellement d'efforts à faire proprement dit, mais c'est de se mettre dans un climat qui soit propice à cette rencontre et à cet espace que ça libère. Donc pour lui, la solitude, le silence, une vie sobre, la nature, le peu de... pas de radio, pas trop d'internet. Il était très très exigeant pour lui par rapport à ça.
C'était sa manière de participer en quelque sorte, de manifester qu'il plongeait dans cette soif de Dieu.
C'était créer l'espace où Dieu pourrait se manifester. Créer l'espace où Dieu pourrait advenir, on va dire, quelque chose comme ça. Mmh. Voilà.
Alors, on parle beaucoup de silence et de création. Or, dans la création, et alors pour les personnes, pour les auditeurs qui nous entendent et qui connaissent cette magnifique vallée de Castelloubon et Gazost, ce village de Gazost, oui, on est dans le silence loin du bruit des hommes, mais la nature, la création autour fourmille, fait un bruit pas possible et vit tout le temps et à fond, évidemment. Donc, d'être plongé comme ça au cœur de la création, oui, il y avait le silence par rapport à l'humanité, par rapport à la société, mais il était quand même dans une sorte de vrombissement de la vie.
Oui, ça je pense, mais le premier titre, le titre de son premier ouvrage, La liturgie des saisons, dit ça très bien. C'est-à-dire que, moi je vis ça un peu aussi là où je suis, quand vous êtes dans un temps long, sans trop d'activité, toujours au même endroit, avec un espace, parce que vous n'avez pas beaucoup de rencontres sur place, etc. La liturgie des saisons, le rythme de la nature porte, toute chose porte. Moi je me rappelle de lui un jour, on était en train de parler chez lui en fin d'après-midi, tout d'un coup un merle s'est mis à chanter. Il s'est arrêté net.
Il pour écouter dit, le écoute. Merle.
Et en fait, j'ai retrouvé un de ses poèmes après où il disait « Mais les oiseaux, dans leur chant, nous apportent quelque chose de l'origine, de la musique originelle du monde. » Vous voyez ? Donc chaque espace, il parle aussi du brin d'herbe qui reçoit toute la lumière du monde. C'est un petit brin d'herbe. Bon. Il est très amoureux des arbres. ces grands frères taciturnes qui nous montrent, qui restent debout à côté de nous, et qui sont un exemple aussi des racines et aussi de l'explosion des branches et des feuillages. Il a beaucoup, beaucoup de comparaisons comme ça. Sa poésie est pleine de la nature.
Il a un petit côté... Est-ce qu'on pourrait dire que sa spiritualité est un peu franciscaine ?
Alors, elle a un côté franciscain, mais ce n'est pas ce qu'il dit en premier. Pour lui, il explique ça dans un de ses livres. Il dit qu'il a deux axes. Un vertical, qui est celui du Carmel, pour la quête de Dieu. Et un horizontal, qui est celui de la spiritualité ignatienne, sur le discernement au niveau de la vie, etc. Et après, il dit, ajouté à ça, il y a un côté, c'est vrai, franciscain à cause de la nature.
Eh oui.
Et un côté cartusien, donc chartreux, à cause du silence, de la solitude. Voilà. Et après, il parle... Bon, donc, c'est, voilà, il fait son mialidique, il parle de courant et pas de spiritualité fixe. Pour lui, le fixe, ça n'existe pas. Et tout ce qui risque de s'enfermer dans une seule chose est un peu un risque. Il préfère laisser les courants s'articuler entre eux et faire son miel un peu de plusieurs choses.
Et il ne voulait pas être enfermé dans un modèle.
Non, il fait sa vie singulière. Mmh. Il parle de la vie solitaire comme une aventure. Et c'en est une. Je pense que c'en est une.
Alors, est-ce qu'on peut essayer de s'imaginer quelle était sa vie au quotidien comment, concrètement, vivait-il au quotidien quel était le déroulé de sa journée? Alors, on comprend qu'il n'avait pas, comme dans une communauté religieuse, des heures fixes. Hein, on sent bien un homme qui a cette soif aussi de liberté, quelque part. Mais quels étaient les piliers de sa vie quotidienne?
Alors, il parle des trois P, lui. Il parle des trois P, prière, parole et pain. Alors, en fait, dans la journée, d'après ce que j'ai compris, il prenait toujours une heure dans la Bible tous les matins, et particulièrement dans l'Évangile. Il donnait une place très, très particulière à l'Évangile, comme le lieu vraiment de la vie nouvelle qui nous est donnée. Et il passait toujours une heure tous les matins, principalement dans l'Évangile. Voilà, on peut dire ça. Après, j'imagine que soit il se promenait, soit il travaillait, il écrivait.
Et pour écrire, il avait besoin de se promener.
Il avait besoin d'espace, il avait besoin de se promener, voilà. Et après, alors il me disait aussi qu'il lisait, et il lisait les auteurs. Hein, il se nourrissait des pères de l'Église, de l'Écriture aussi, des pères du désert peut-être un peu, des spirituels comme Saint Bernard, Saint Guillaume de Saint-Thierry, Maître Eckhart, tout ce monde-là. Et il était très, très érudit quand même de la tradition de l'Église, quoi.
Très héritier de la tradition et puis en même temps très novateur
et
dans sa manière.
Et en même temps très novateur dans sa façon d'en vivre, sans copier si vous voulez. Ouais. Voilà. Et alors il avait sûrement aussi en fin de journée une heure vraiment de silence et de solitude. Où il était là à ne rien faire quoi. Pour voir un peu aussi comment la parole du matin avait mûri dans la journée. Mmh. Voilà. Donc en fait, ça se partageait entre tout ça. Après, la vie quotidienne, évidemment, des repas, etc. Mais,
comment on vit ce chemin d'intériorité sans tomber peut-être dans ce qui pourrait être un piège du repli sur soi?
Alors, il a toute une page dans un livre qui va sortir bientôt, parce qu'il y en a encore deux à sortir. Le dernier, c'est très très beau. C'est un peu toute la reprise de son parcours. Et il dit, attention, l'intériorité, ce n'est pas de l'introspection. Il dit, l'introspection nous met dans un climat quand même de rationnel. On réfléchit, on relit, on refait le film des événements, on y revient, on réexplique, on essaie de comprendre. C'est une question quand même mentale. L'intériorité est d'un autre ordre. L'intériorité, c'est laisser... l'être s'apaiser, faire silence, descendre en soi et laisser de l'espace, laisser un espace d'accueil, devenir écoute. Et à force de le cultiver, l'espace s'élargit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout le même climat. L'intériorité élargit l'espace. L'introspection risque de nous enfermer dans notre moi.
Voilà, autour du nombril.
Ouais, alors que... L'intériorité, il dit, c'est plutôt le jeu profond qui s'élargit, qui se met en communion et qui finit par toucher Dieu au fond de lui-même, si vous voulez. Donc, ce n'est pas du même ordre. Et le climat qui en sort n'est pas le même.
Est-ce que Philippe MacLeod était un homme heureux?
Oui, ça c'est sûr.
Ben voilà.
Il l'a dit aussi. Il l'a dit, aussi.
Il l'a dit, il l'a écrit.
Il l'a même écrit avant de mourir, puisqu'il a, il est mort quand même, il a eu le temps d'écrire. Et il écrit « Je pars, mais je suis un homme heureux. J'ai vécu une belle vie. » Oui, oui.
Parce qu'au plus profond de lui, il avait rencontré Dieu, qui remplissait oui. tout son être.
Oui, et là, Lourdes a été un grand appui pour lui, parce que pour lui, la grotte de Lourdes, c'est l'image de notre intériorité. Et la source que dégage Bernadette, eh ben, c'est la source à dégager au fond de soi. Et quand cette source est dégagée, eh ben, ça nous rejaillit sur beaucoup plus large que nous.
Voilà, alors demain, justement, nous achèverons cette émission spéciale, cette série d'émissions sur Philippe MacLeod et nous parlerons de sa relation à Sainte Bernadette parce que vous nous direz que c'est Sainte Bernadette qui a conduit Philippe MacLeod à Lourdes et à Gazoste, mais voilà, dans les Hautes-Pyrénées. À demain, sœur Anne-Cécile, et on se quitte en écoutant Philippe MacLeod.
À demain. Merci.
C'est l'âme qui façonne le visage. Elle le modèle de l'intérieur, en brouillant les lignes, en animant la moindre parcelle d'une multitude de plis imperceptibles. De son souffle insaisissable, elle dessine les contours d'un relief imprévisible. Plus que cela, elle l'imprègne, elle s'y imprime trait à trait, en diffusant à la surface de la peau cette lumière humaine qui manquait à la splendeur du jour. Le cœur semble affleuré. Trop à l'étroit dans l'obscurité du corps, il a percé cette large issue. À travers elle, il déborde, il irradie pour éclairer le monde d'une tendresse nouvelle. Un ange veille, invisible. Il plane sur nos fronts. Il transparaît dans une lueur qui passe, le battement d'ailes d'un regard, le ciel d'un sourire qui s'entr'ouvre. Il est cette clarté muette qui transfigure la chair, qui l'enveloppe, l'irrigue, la pénètre de bonté. Puissions-nous prendre au sérieux cette manifestation de la vie qui émane de chacun de nous, cette onde de présence que nous propageons sans même y songer ?